Salut Mathieu.
Salut Martin.
Comme il y a plusieurs fans de chevaux dans la région, oui. On a juste à se promener un peu là, sur les routes de notre belle région, s'apercevoir que du chevaux, il y en a en tas. Là.
Oui.
À chaque fois que ça fait la mangette, la mort d'un cheval ou un incident impliquant un cheval, ça amène toujours des questions, entre autres, concernant les chevaux de calèche.
Oui, puis sais-tu l'histoire qui est survenue hier à Montréal, qui a même fait réagir la mairesse qui est sortie là-dessus. On connaît la position de l'administration de Valérie Plante, c'est-à-dire qu'à partir de 2020, du 1er janvier 2020, il n'y aura plus de calèche dans les rues de Montréal. Sur la pertinence des calèches dans un milieu urbain, dans une ville qui s'est vraiment, vraiment étendue, surtout dans le secteur où ils étaient, ouais. Ils étaient installés, là, les cochers, moi, je suis pas contre l'idée de les sortir de la ville parce que...
Mais
de les
déplacer?
Non. Je pense que, tu sais, c'est révolu. C'est d'une autre époque.
Et pourtant, ça a un cachet.
Ça a un cachet. Tu as entièrement raison. Dans le Vieux-Montréal, ça a sa présence. Le problème principal, Martin, c'est surtout que les installations des cochers de Montréal étaient dans un quartier qui était à l'abandon depuis plusieurs années, qui était dans la petite Bourgogne. Puis, c'est un quartier qui s'est développé, qui est Griffintown, qui est la petite Bourgogne. On est à la limite des deux, là. Où ce sont des quartiers qui, depuis 10 ans, ont changé complètement de visage. Et là, les cochers doivent passer au travers de ça, à travers la circulation, etc. Et moi, je pense...
Mais leur port d'attache n'est plus le bon, dans le fond.
Il n'est plus le bon. Puis, avec la circulation qui est tellement difficile dans le centre-ville de Montréal, si on était dans des rues qui étaient entièrement piétonnières, je dirais peut-être que c'est encore sa place. Maintenant, tu sais, le débat, moi, je suis pas celui qui va se battre en se disant qu'il faudrait qu'on garde ça. Par contre, quand je lis l'indignation qui est soulevée par la mort de ce cheval-là hier, là, je trouve qu'il y a des niaiseries qui se disent et là, je trouve que la fin justifie pas toujours les moyens. Et quand j'entendais Mme Plante dire et de nombreux groupes de défense des animaux dire « Voici l'exemple pourquoi il faut que les chevaux soient retirés des rues de Montréal », pour moi, ça n'a aucun rapport. De un, personne ne sait de quoi est mort ce cheval-là hier, avant de partir.
État de santé, la vieillesse, il peut y avoir maintes explications.
Je veux juste rappeler aux gens que la majorité des chevaux de calèche qui se retrouvent là, ce sont des chevaux qui ont été achetés à l'encan par des propriétaires, donc des chevaux qui, pour plein de raisons, bonnes comme très mauvaises, se retrouvent à l'encan de chevaux où leur destination finale, s'ils ne sont pas achetés, c'est l'abattoir pour en faire de la viande chevaline.
Ouais.
Ou sinon, c'est important de le dire parce que c'est tout récent, là. Il y a un marché asiatique qui s'est ouvert pour la viande chevaline qui est extrêmement lucratif pour les commerçants de chevaux à l'heure actuelle.
Ah oui.
De la région ici, je peux te le dire. Les prix,
plusieurs vendent là-bas?
Ah, écoute, Martin, ils vendent pas directement à des commerçants asiatiques, mais ce qu'ils font, c'est que les chevaux de trait n'avaient pas de valeur il y a quelques années. Les prix ont planté là, il y a plusieurs années.
Oui.
Tu pouvais acheter un cheval de trait, des Belges, des chevaux, des percherons, des Clydesdale pour des prix dérisoires. Si bien que souvent, les producteurs, les gens qui élevaient, les éleveurs de chevaux, se retrouvaient à vendre à des prix dérisoires leurs poulains. Ça a changé parce que depuis un an ou deux, le marché asiatique s'est ouvert, il y a des exportateurs. Là, le prix est revenu et pour les éleveurs, ils ont dans le fond le prix que vaut leurs chevaux, carrément.
Et ce que leur a coûté l'élevage.
Ben, c'est pas gratuit, là. Au-delà de la semence, là, c'est l'entretien de chevaux comme ceux-là qui coûte une fortune. Et là, les prix sont remontés. Je vais donner un exemple bien bidon. Pour un cheval là, tout à fait normal là, de trait, là, c'était pas rare que tu peux payer ça 1500, 1800, 2000 $. Puis tu peux avoir un cheval pas pire. Maintenant, sur les marchés, il faut que tu payes le double et sinon plus.
Ah oui.
Et là, les gens qui ont acheté pendant des années des chevaux à prix dérisoire, je pense aux cochers, entre autres, puis propriétaires de calèches, là, il faut qu'ils payent le double. Parce que sinon, lui, le propriétaire, là, il sait qu'il y a un marché de toute façon, il va le revendre à quelqu'un d'autre, qui lui va le revendre à un autre commerçant, qui va l'amener vers le marché asiatique.
Ouais.
On m'a raconté ici en Estrie que de très, très, très bons chevaux, de très, très bonnes lignées, se sont retrouvés dans des avions direction le Japon, pour être abattu pour faire de la viande chevaline.
Ah oui.
Alors qu'ils auraient été des champions, là, carrément.
Ah oui.
Donc, Je ferme cette parenthèse-là.
Mais assurément à gros prix, là.
Oui, oui, bien, à prix normal, okay, je dirais. Okay. Donc, il y a un ajustement du marché. Donc, ces chevaux-là qui sont achetés dans le camp, ce sont des chevaux qui sont des fois vieux, des fois qui ont eu des problèmes de boiterie, des fois qui ont eu des problèmes de santé.
Mm-hmm.
Dans le cas ici de Zeus, qui est le cheval qui est mort, auquel on fait référence, on ne le sait pas.
Mm.
Tout ce qu'on sait, c'est que dans la demi-heure avant son décès, c'est qu'il se serait mis à tousser.
Mm.
Et la cochère a même dételé le cheval pour le mettre au repos parce qu'il avait eu, deux semaines avant, quelque chose qui traînait qu'on avait diagnostiqué comme une grippe.
Okay.
Il faut comprendre que lorsqu'on a affaire à de la médecine vétérinaire de gros animaux comme ça, comme les animaux de ferme, tu sais, on y va par déduction, là, on y va par élimination pour arriver à un diagnostic. Le cheval ne te dira pas, lui, comment il se sent. Fait que là, tu y vas par un diagnostic. Il avait été au repos pendant deux semaines.
Tu ne diras pas ça. Là.
Ben non, puis tu vas traiter.
Ou un antibiotique.
Des chevaux qui toussent, là, Martin. Moi, j'en ai eu chez nous. Puis on a fait des traitements à essai-erreur avec l'aide du vétérinaire pour essayer de trouver c'était quoi le problème, à mouiller le foin, à essayer de changer. Puis finalement, ça a passé. Qu'est-ce qui est arrivé avec lui?
Ouais.
On le sait pas. Et il y a des cas, écoute, à chaque semaine, dans des écuries de l'Estrie, très, très, très bien tenues. Là. Puis moi, j'ai des cas en tête récents. Là. Le cheval saigne, il est amené à l'hôpital vétérinaire de Saint-Hyacinthe pour traitement et il n'en ressort pas quelques heures plus tard. Et c'est pas parce que ces chevaux-là étaient maltraités, au contraire.
Ouais.
Ce sont des bactéries, des champignons.
Ça veut dire que c'est une médecine vétérinaire très peu documentée. Je comprends.
Non, il y a de la compétence, mais c'est parce que ça peut être un paquet de choses.
Ouais.
Et malheureusement, ce sont de grosses bêtes qui sont très fragiles.
Ouais.
C'est là où je m'en vais avec ça. Donc, avant de faire un lien de causalité, de dire c'est Luc Desparois. C'est un bonhomme qui s'occupe mal de ses chevaux.
Ouais.
Il n'aurait pas dû être dans la rue. Il est mort. On devrait sortir les calèches. Parce que, de un, moi, je souhaite qu'il y ait... l'administration municipale là, qui crie à tout vent, là, j'espère qu'ils vont faire une autopsie puis ils vont comprendre. Puis si on arrive...
Puis pour les besoins même, tu sais, je veux dire, de la connaissance vétérinaire.
Ça va plus loin que ça. C'est dépister...
Ouais.
Va voir quel type de nourriture il avait. Est-ce que c'est dans le foin qu'il y avait que ça faisait pas? Est-ce que c'est...
empoisonné, peut-être? Tu sais, il y a plein de choses là, qui peuvent être soumises comme hypothèse.
Ce sont de grosses bêtes fragiles, puis moi, je souhaite...
Je te pose la question. Si on les sort de Montréal, est-ce qu'on amène les calèches à Sherbrooke?
Non. Honnêtement, il y a déjà des services qui existent. Il y a des gens que moi, je connais...
Non, mais tu sais, faire la tournée des murales, là, en cheval...
ben ça a quelque chose. Ben, regarde tous les carnavals d'hiver ici, dans la région. Tu as
la question, là, aujourd'hui, là.
Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je pense que c'est une industrie qui appartient à une autre époque.
Ouais.
Et surtout que tu as des gens, maintenant, qui le font très bien à forfait. J'en connais qui le font pour les carnavals d'hiver que vous voyez, là, partout, là. Ils ont des balades à cheval.
Il y a des taxis à course, là. on a revu ça un peu, là, des gens qui remplacent le cheval.
Peut-être.
Donc, pour toi, calèche, Sherbrooke, non? Oui, il faut que je me remette en forme, mais pas comme ça.
J'attelle mon pelletier, puis on va faire le tour de la côte. Hey, tu sais, la belle côte à côté de la cathédrale. Ouais, la côte King ou la côte de la cathédrale, là.
Ouais. La côte d'Acadie.
Pour moi, il n'y a pas juste le cheval qui va se coucher sur le côté et qui se relèvera pas
de je pense qu'on va redescendre avec culon. Avec l'autre sur le derrière. T'as vu Bohemian Rhapsody, en fait. Ouais. On a un court mot là-dessus.
Moi, j'ai aimé ce que j'ai vu. Je suis allé voir à la maison du cinéma. Puis, tu sais, les critiques sont très, très, très mitigées sur la qualité du film. Si vous êtes un fan fini de Queen, vous allez trouver des incohérences dans le film. Il y a des choses qui se...
C'est un film.
Oui, puis on a modifié... on appelle ça un biopic, mais c'est un... On est allé modifier la ligne du temps pour rendre ça plus, plus intriguant.
Ouais.
Puis pour faire adonner des affaires qui n'arrivent pas dans le même ordre. Mike Myers, là, qui jouait Austin Powers, est méconnaissable en passant. Là.
Okay.
Mais tu sais, son personnage n'a pas vraiment existé. C'est un cumul de plusieurs personnes chez EMI.
Okay.
La scène finale... de Live Aid, où on n'a pas repris, puis je sais que ça a été dit, là, on dit on a repris la version de ce que Queen a fait en entier à Live Aid en 85.
Mm.
Non, c'est une partie. Ils ont fait 15 minutes au lieu de 24.
Ouais.
Ils ont On dit juste avant, on dit « Ouais, mais comment on peut aller jouer devant des millions de personnes alors qu'on n'a pas joué ensemble depuis des années? » C'est pas vrai, parce que Queen tournait dans l'année avant ensemble.
Oui.
Puis ça laisse supposer, dans la trame du film, puis je veux pas tout dire, que c'est un moment très particulier parce que tu as l'impression que c'est la dernière
fois.
Retrouvaille et dernière.
Et pourtant, c'était pas la dernière.
Non, parce qu'ils ont rejoué ensemble, ils ont fait des tournées, puis en plus, ils ont refait des albums ensuite.
Malgré ces coquilles,
moi, j'ai trouvé ça divertissant.
Oui.
Ça dure 2h30. J'ai pas regardé une fois mon téléphone en trouvant ça plate et long.
Bon.
Il y a des affaires que j'aurais peut-être faites autrement. Il y a des affaires que j'ai trouvées un petit peu cheapette, mais ceci dit, ce fut un bon divertissement.
Okay.
Mais si vous aimez la musique de Queen, vous allez trouver ça
régaler.
Vous allez trouver ça fun quand même. Là,
oui. Merci, Mathieu.
Salut, Martin.